Bonjour à tous, au centre Dumitru Stăniloae, voici de nouveau, je me trouve devant vous pour vous proposer le cours de théologie orthodoxe et sciences, quatrième séance du premier niveau. Donc aujourd'hui nous allons traiter la problématique de la méthode et de la méthodologie dans la vie de l'Église, dans la théologie. Étant donné que c'est un sujet qui ne comporte pas trop de théorisation, étant donné que la vie de l'Église est une vie expérimentale par excellence, il est assez difficile, selon le modèle des connaissances scientifiques, de pouvoir développer une théorie de la connaissance, disons, théologique. Pourtant, si on fait certaines lectures des pères de l'Église, on peut se rendre compte que les pères étaient préoccupés par la manière dont on fait l'acquisition de la connaissance théologique. C'est-à-dire comment, de façon plus simple, disons, comment connaître Dieu. Quelle est la connaissance véritable de Dieu? Donc, à mon avis, le premier ouvrage qui doit susciter notre attention est l'ouvrage qui raconte l'entretien avec Motovilov du saint Séraphin de Saro. Je vous montre l'ouvrage que vous trouvez. C'est une belle édition, édition Arfuienne. Mais je dis tout simplement que l'ouvrage est extrêmement accessible et beau, donc on peut l'avoir dans nos mains et qu'il faut qu'on n'hésite pas à le trouver. Vous le trouvez, je pense, à la Procure, à Paris. Donc, l'entretien avec Motovilov, traduit de russe, avec une préface de Père Michel Evdokimov. Cet ouvrage nous donne certains repères très accessible, peut-être les plus accessibles, de la méthode, entre guillemets, de la façon dont l'Église conçoit la connaissance de Dieu. Je vous raconte un tout petit peu le contexte, justement pour tirer nos propres conclusions par rapport à notre cours. Donc, Saint Séraphin de Sarov adresse sa parole à son disciple Motovilov en lui disant: depuis ton enfance, Dieu m'a découvert le fait que tu as beaucoup de personnes interrogées aux questions de le but de la vie chrétienne. Et moi, le pauvre Séraphin, je veux te dire que toutes les réponses que tu as reçues de leur part n'étaient pas les réponses correctes. Et je vais te donner la réponse qu'il faut. Donc, le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit, ou l'acquisition de la grâce du Saint-Esprit. Et Saint Séraphin de Sarov dit que le jeûne, les bons aspects de la vie chrétienne, les bonnes actions, le jeûne, la prière, l'éveil, et toutes les autres pratiques chrétiennes, sont toutes excellentes qu'elles soient, ne constituent pas le but de la vie chrétienne, même si elles sont indispensables pour l'atteindre. C'est-à-dire le vrai but de la vie chrétienne, qui se distingue des milieux, des outils qu'on utilise pour pouvoir l'avoir, c'est l'acquisition de l'Esprit Saint de Dieu. Et donc il donne cette image de vierge, les 10 vierges qui se trouvent dans les évangiles, 5 qui étaient folles et 5 qui étaient sages. Les saints qui étaient sages avaient pris dans leur lampe en attendant l'époux à minuit. Elles ont pris assez d'huile pour pouvoir embellir leur lampe et entretenir la flamme de leur lampe. Et les autres n'avaient pas suffisamment. Elles ont demandé, les autres nommés folles, elles ont demandé de l'huile. Et les sages ont répondu de peur pour ne pas avoir assez pour vous et pour nous, allez chez ceux qui vendent et acheter de l'huile. Elles partent, malheureusement, si on peut dire. L'époux vient parce que minuit, ça fait minuit, l'époux vient, les portes se ferment et les cinq folles arrivent plus tard et commencent à frapper la porte et on ne peut plus ouvrir la porte. Et donc, Saint Séraphin de Sarov, il nous explique en fait, minuit c'est le moment où on sort de cette vie, Et en sortant de cette vie, tout simplement, nous n'avons plus les moyens pour pouvoir faire ce qu'on devait faire ici. Et ici, justement, le but essentiel de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'huile et cette présence de l'Esprit-Saint en nous qui entretient la flamme de nos cœurs. D'ailleurs, il y a plusieurs citations qu'on peut donner dans les évangiles quand on est conseillé qu'on n'éteint pas la flamme qui nous habite. Ou Luc et Cléopas sur le chemin avec le Seigneur, une fois qu'ils se rendent compte qui était la personne avec laquelle ils ont mangé ensemble, donc leurs yeux sont ouverts, donc ils se rendent compte que leur cœur brûlait en eux une fois que le Seigneur leur expliquait les Écritures. Ça sera magnifique qu'aujourd'hui que nos cœurs brûlent aussi quand nous écoutons une exégèse par rapport aux évangiles. Parce que le Seigneur, c'est le premier exégète, c'est lui qui a expliqué au temps de sa vie tout ce qui faisait référence à sa présence, à sa personne dans les Écritures saintes. Donc, pour revenir, Saint-Séraphin de Sarov, en réalité, donne dans des paroles très condensées l'essentiel à comprendre de la vie chrétienne, c'est-à-dire la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Comment faire l'acquisition du Saint-Esprit? Donc, si on se pose ce genre de questionnement, il est évident qu'on ne peut pas parler d'une méthode qui rassemble, si vous voulez, ce qu'on trouve dans les connaissances diverses, comme dans les connaissances scientifiques ou autres, parce que il n'y a pas de technique, il n'y a pas de stratégie de connaissance valable qui nous assure qu'on arrive à connaître Dieu parce qu'on a appliqué correctement les règles de la connaissance. En fait, à la base de toute démarche théologique, reste l'amour de Dieu pour nous. Bien sûr, c'est lui qui provoque l'amour de Dieu en nous comme réponse par rapport à ce qu'on sent de sa part. Parler de la méthodologie n'est pas chose facile. Donc, ce qui nous intéresse, c'est tout simplement décrypter dans les écrits des pères comment ils ont fait pour connaître Dieu. Donc, toute comparaison avec le monde scientifique, technique ou autre ne peut pas être facile à cause du fait qu'on parle d'une connaissance où, à la base, on parle de l'amour de Dieu pour l'homme et de l'amour de l'homme qui s'installe petit à petit pour Dieu. Justement, ça entre dans le registre du subjectif, ça entre dans le registre de l'interpersonnel. Et donc, on ne peut pas imaginer la structure classique de la connaissance, objet de connaissance, sujet connaisseur. Oui, sujet connaisseur, c'est l'être humain. Et méthode, ça veut dire ce que les autres ont fait justement pour pouvoir arriver au but. Et le but, comme nous l'avons vu, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. En ce qui concerne l'objet de connaissance, l'objet théologique de connaissance, il est évident que notre objet de connaissance est un sujet qui s'ouvre volontairement pour pouvoir être connu par l'être humain. Donc, notre objet ne reste pas impassible à nos actions, à nos initiatives de connaissance. C'est lui qui nous invite et qui nous ouvre, si vous voulez, le chemin de sa connaissance. Pour revenir à notre cours, le cours d'aujourd'hui concerne cette question de méthode en théologie et les notions de terminologie, c'est-à-dire il faut qu'on évoque une terminologie propre à la vie de l'Église. Cette chose n'est pas très très compliquée. On va se servir aujourd'hui d'un ouvrage paru en Roumanie qui s'appelle Dictionnaire de théologie orthodoxe et sciences que j'ai écrit avec Adrian Lemeny. Et donc, dans ce dictionnaire, nous avons proposé des termes qui sont des termes théologiques, des termes scientifiques et des termes qui ont un double registre scientifique et théologique. Et donc, si on cherche les termes théologiques, nous allons découvrir qu'on peut parler d'un instrumentaire, d'un fond de termes qui est spécifique à la vie de l'Église. Je vais énoncer quelques termes pour pouvoir nous situer plus précisément dans les questions théologiques. Par exemple, antinomie, ascèse, c'est-à-dire l'effort spirituel, Église dans le sens de l'Église bâtiment, mais d'abord dans le sens de l'Église corps du Christ qui englobe tous les membres de l'Église, qui sont nous-mêmes. Contemplation ou théoria, qui est une vision de Dieu. La théoria est une vision de Dieu qui ne se fait pas à travers les moyens naturels, on peut dire, de l'être humain, mais qui est l'agissement de Dieu dans l'être humain, bien sûr avec le concours de l'être humain. Mais je précise tout cela justement pour voir par rapport à la théorie scientifique qui est une abstraction, une image de la réalité suite à des expérimentations. La foi, la culture aussi, parce qu'on se cultive dans la vie de l'Église. La communion, c'est un mot essentiel pour la vie théologique étant donné que nous disons que les saints sacrements qu'on reçoit, le corps et le sang de Christ, sont la communion, nous prenons la communion, mais aussi la communion dans le sens large. Quand nous prenons une agape ensemble, ça veut dire que nous goûtons quelque chose comme signe de communion visible entre nous. On peut proposer aussi des termes qui sont vraiment un peu des néologismes en quelque sorte, qui viennent du grec, épiphanie ou théophanie. Par exemple, Dieu se montre, Dieu se montrant. Eschatologie, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'accomplissement de l'économie de Dieu, c'est-à-dire du plan de Dieu par rapport à l'être humain. Eschatologie, ça ne veut pas dire uniquement la fin du temps, mais eschatologie veut concerner aussi chaque célébration liturgique qui nous propose à vivre maintenant et ici ce qui sera dans la plénitude à la fin du temps. Expérience théologique. La philokalie, c'est la collection des textes qui nous donnent le chemin vers Dieu. Et ici, je m'arrête un tout petit peu, je vous dis que toute cette collection philokalique que vous voyez ici en roumain, la philokalia, c'est une collection des textes, textes choisis spécialement pour montrer à l'être humain comment arriver à sa déification, c'est-à-dire au but de sa vie, c'est-à-dire l'acquisition du Saint-Esprit, mais non pas comme un accident, c'est-à-dire on touche la présence de l'Esprit-Saint, mais comme une sorte de vivre avec l'Esprit-Saint maintenant pour l'éternité. Charisme. Le mot charisme, il est utilisé dans la culture de l'entreprise aujourd'hui pour dire si quelqu'un a un certain don un peu particulier. Mais charisme dans la vie de l'Église, c'est un don spécifique du Saint-Esprit donné par l'Esprit-Saint, une grâce pour pouvoir accomplir un certain travail spirituel en lui, en Dieu. Hypostasie, ça concerne la personne humaine, on peut dire comme ça, la personne. Hésychasme, c'est la discipline spirituelle qui surveille l'accomplissement de la prière, quand je dis surveille, c'est-à-dire l'attention continue, l'éveil spirituel, nepsis, voilà, l'éveil spirituel mis en pratique justement pour pouvoir acquérir cette présence consistante de Dieu en nous. La déification, c'est-à-dire l'homme qui devient Dieu selon la grâce, qui fait l'acquisition des propriétés divines en lui, en vivant ce que Dieu vit, sa vie. Déification ou divinisation, mais c'est plutôt déification, je pense. La liturgie, le mot liturgie en général dans le milieu catholique veut dire n'importe quel prière faite, quel office fait dans les églises, mais ce qu'on appelle la divine liturgie ou la sainte liturgie pour les orthodoxes, ça représente l'Eucharistie. Métanoïa, c'est le repentir, mais en fait c'est le renouveau de l'intelligence selon l'inspiration de la grâce du Saint-Esprit. Miracle, prodige, mais miracle, c'est pas une, disons, violation des lois naturelles, justement pour montrer qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est plus que cela. Miracle, ça veut dire théophanie, c'est-à-dire Dieu se montre d'une façon plus évidente à travers des moments distants qui donnent à l'être humain la possibilité de le voir autrement et d'ouvrir les yeux de la foi. Nature, on utilise beaucoup le mot nature, pas dans le sens de la nature qui nous entoure, mais nature, quand on dit que Dieu est un selon sa nature, on dit en même temps que Dieu est trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, qui partagent, chacun partage complètement, donc a complètement la nature divine. Patristique, ce qui concerne les écrits ou la vie des pères de l'Église. Père, le père veut dire l'exercice de la paternité spirituelle, parce que quand on dit notre Père qui est aux cieux, Dieu le Père est le Père par excellence de nous tous. Le Seigneur, après sa résurrection, il dit « Ne me touchez pas parce que je ne suis pas parti à mon Père. » Je vais à mon Père et votre Père, à mon Dieu et votre Dieu. C'est-à-dire Dieu le Père, à travers la fraternité que nous portons dans le Seigneur, devient, et à travers tout ce qu'il a fait pour notre salut, devient notre Père à nous. Mais nous avons aussi l'exercice de cette paternité spirituelle à travers les Pères qui sont dans la vie de l'Église et qui manifestent leur amour et qui sont capables d'offrir à leur fils spirituel le chemin vers Dieu. Spiritualité, le mot spiritualité n'est pas très facile à utiliser étant donné qu'il a tous les sens possibles aujourd'hui, mais en principe spiritualité, ça veut dire, en roumain on dit plutôt duhovnicie, duhovnicie. Duh, ça veut dire l'Esprit Saint, donc ce qui concerne l'Esprit Saint. Donc spiritualité pour nous les chrétiens orthodoxes veut dire tout ce qui concerne la présence, l'action, la recherche de l'Esprit Saint. Mystère ou sacrement, les saints sacrements de l'Église, c'est des prières que nous faisons, des offices qu'on fait pour donner accès aux gens à la réalité de Dieu. Nous on compte 7 sacrements dans l'Église catholique également, mais en même temps il faut faire cette observation que les sacrements, en fait, c'est les mystères, on peut dire, de l'Église. Mais qu'est-ce qui n'est pas mystérieux dans la vie de l'Église? Tout est mystère, et donc compter uniquement jusqu'à 7, ce n'est pas nécessairement, peut-être pour des raisons pédagogiques c'est très bien, mais il ne faut pas non plus en fait limiter le nombre des sacrements ou le côté mystérieux, mystique de la vie de l'Église à uniquement à des moments où on fait les sacrements de l'Église. Mystique, je nommais le mot mystique. Il y a des théologiens orthodoxes qui disent que nécessairement toute la vie chrétienne, n'importe quelle vie de n'importe quel chrétien est une vie mystique en réalité, dans le sens où tout est mystique dans la vie de l'Église. C'est-à-dire, mystique ça veut dire on a la possibilité de contempler Dieu, et donc tout est contemplatif dans le sens où à travers nos actions dans la vie courante, on fait quelque chose, on sent, on ressent la présence de Dieu. Théologie, qui pour certains veut dire le discours ou dans les dictionnaires l'étude des choses religieuses, parfois on dit que c'est le discours, il est évident que c'est aussi le discours, mais la théologie c'est aussi la vie en Christ, parce que on peut dire que le discours concernant Dieu doit avoir à sa base la parole, la présence que Dieu donne dans nos cœurs. Donc théologie, ça veut dire Dieu nous parle pour qu'on puisse parler de Dieu. Sinon, bien sûr qu'on développe beaucoup de théologies qui sont en réalité un peu des philosophies concernant Dieu et qui ne sont pas ce qu'on attend véritablement dans une vie qui cherche la transformation profonde de l'être humain afin qu'il devienne de plus en plus ressemblant à Dieu. Nepsis, ça veut dire l'attention au travail en Dieu, au développement spirituel en Dieu, l'attention à Dieu d'abord, la vision de Dieu, vision, contemplation. On dit que personne n'a vu Dieu et en même temps, nous disons que Dieu peut être contemplé. Heureux seront les cœurs purs parce qu'ils verront Dieu. Donc voir Dieu à travers une contemplation, à travers la théoria, voir Dieu est tout à fait possible dans la vie chrétienne parce que le regard qu'on nous demande, ce n'est pas bien sûr le regard d'un scientifique ou d'une personne normale qui regarde dans la rue, mais c'est un regard spirituel qui nous laisse sentir les raisons profondes spirituelles qui se dégagent dans la contemplation de quelque chose qui est autour de nous, mais dans un niveau plus grand, on peut dire qu'on ressent dans notre être la présence de Dieu, à travers les actions qui se passent, à travers tout ce qui nous entoure. Et nous avons peut-être théophanie, Dieu se montre, je disais tout à l'heure, épiphanie aussi. Et voilà, nous avons parcouru un certain, disons, vocabulaire, c'est-à-dire un fond de base des termes théologiques qui nous aident à parler de Dieu. Donc pour revenir maintenant, je peux vous indiquer aussi, si vous voulez, si vous cherchez des ouvrages qui vous parlent de cette méthodologie spécifiquement théologique, je vous conseille à trouver, moi j'ai la version roumaine, mais vous avez la version française, la spiritualité orthodoxe, l'ascétique et la mystique de la vie chrétienne de Père Dumitru Stăniloae, traduite par Romain Othal et Père Jean Boboc en français. Donc vous trouvez les repères essentiels, vous trouvez d'ailleurs cet ouvrage aussi sur Amazon.fr, il me semble. On va chercher. On va chercher Stăniloae. Voilà. Théologie ascétique et mystique de l'Église orthodoxe. C'est un ouvrage qui est essentiel pour comprendre disons la méthode ou les notions de méthode propre, on peut dire, à la vie de l'Église. Bon, pour revenir maintenant, la méthode en théologie nécessite aussi une conscience dogmatique. Il est évident que cette conscience ne peut pas apparaître d'un coup, que cette conscience se développe. Hilarion Alfeyev, c'est un évêque russe et un théologien, à mon avis, remarquable, parce que sa dogmatique, le mystère de la foi, paru ici en France, chez Cerf, est, à mon avis, parmi les meilleures dogmatiques qu'on peut trouver. Et donc, Hilarion Alfeyev insiste sur le lien étroit entre prière et théologie dogmatique. C'est-à-dire, toute altération des dogmes mais nécessairement une dénaturation de la pratique de la prière. Cette vision est partagée par l'archimandrite Ephrem, l'igoumène du monastère de Vatopet. Si le dogme est modifié, il n'y a plus de sainteté, la sainteté ne peut plus être atteinte. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas de déification chez l'homme en dehors d'une conscience dogmatique correcte. Donc, il faut avoir une conscience correcte. Mais cette conscience dogmatique, en réalité, c'est l'image, en quelque sorte, c'est l'image de Dieu en nous. Mais comme nous savons, depuis la Genèse que nous sommes faits, selon l'image et la ressemblance de Dieu, nous avons en nous, comme structure, cette image de Dieu qui nous rend capables de nous entretenir avec Dieu, de communiquer avec lui, d'être en communion avec Dieu. Mais en même temps, cette image de Dieu nécessite notre croissance et la base, uniquement le fondement sur lequel nous devons instaurer une croissance spirituelle qui se traduit par le développement personnel d'une conscience dogmatique correcte, c'est-à-dire voir Dieu correctement, sentir Dieu, percevoir Dieu, contourer en quelque sorte Dieu dans nos pensées correctement. Comment le faire? Et cette difficulté n'est pas anodine. L'archimandrite Sophronie, dans son ouvrage La félicité de connaître la voie, nous dit la chose suivante. Le dogme nous place devant le fait de l'être divin sans nous fournir d'explications rationnelles. À l'homme croyant, le dogme donne une réponse à toute recherche, à tout postulat de l'intelligence. L'esprit humain, confronté avec le dogme, cherchera ensuite ses propres voies pour assimiler les données de la révélation divine et s'en approprier le contenu. Et c'est ici que commence ce qu'on appelle le développement théologique. Donc soyons rassurés, notre conscience se développe. Au départ, quand nous commençons à connaître Dieu, c'est plutôt au niveau d'institutions personnelles, du sentir, des émotions et tout ça. Mais petit à petit, en lisant en même temps avec le vécu, nous installons en nous une possibilité de d'écrire en quelque sorte le contour intellectuel de ce qui en réalité nous échappe. Et ça, c'est un peu les définitions dogmatiques. Mais les définitions dogmatiques nous donnent un cadre dans lequel on peut approfondir, on peut plonger, on peut réévaluer les choses au fur et à mesure où nous vivons la foi. Après, le discours théologique, il est important de comprendre qu'il comprenne deux dimensions. Une dimension, une expression, disons positive ou kataphatique, par affirmation, le mot vient du grec, et une expression négative ou apophatique, par négation, dont la mission est de compléter la première. Le métropolite Calliste Soeur, et il est très très sympa théologiquement parlant, donc il fait une comparaison qui me plaît énormément entre la vie du monachisme et la vie du couple marié, en disant que l'une sans l'autre, on ne peut pas la comprendre. Et donc de la même façon, la théologie apophatique et la théologie cataphatique se complètent réciproquement, c'est-à-dire on ne peut pas parler de cataphatisme à apophatisme et vice-versa. En même temps, l'apophatisme, c'est la connaissance des profondeurs, on peut dire, de Dieu. Parce que si dans la théologie cataphatique, on essaie de décrire qui est notre Dieu, on se rend compte vite que nos notions ne sont pas suffisantes et nous avons besoin de dire encore plus. À un certain moment, je donne un exemple, nous disons Dieu est lumière. Dieu est lumière parce que de toute façon, dans le credo, nous disons lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, en parlant du Seigneur. Dieu est lumière, mais il est une telle lumière, une telle plénitude de lumière que quelqu'un pourrait dire, mais non, lui, il est ténèbres. C'est-à-dire, c'est une lumière si intense qu'il est au-delà de l'éclat de la lumière. Donc, c'est les ténèbres lumineuses de Dieu. Donc, ténèbres lumineuses, c'est un syntagme, on peut dire, qui veut décrire un maximum, un hyper quelque chose, voilà, par rapport à Dieu. Et donc, ce genre d'apophatisme ne suffit pas, parce qu'en fait, le deuxième degré d'apophatisme n'est pas, dépasse le concept. C'est que le premier niveau qui traite au niveau de concept. Le deuxième, c'est cette plénitude engendrée par l'expérience concrète de la présence de Dieu à travers la prière, où le discours ne peut plus servir. C'est-à-dire, on vit quelque chose qui nous dépasse, où le discours ne sait pas exactement comment s'en prendre. Et donc, cette expérience est l'expérience, j'ose dire, propre de la vie de l'Église, même si peut-être ne sont pas très nombreux à le faire couramment, si on peut dire. Et ça sera magnifique que ça soit au moins une fois dans la vie aussi de sentir cette plénitude. Donc l'apophatie signifie le refus d'épuiser la connaissance de la vérité en s'en tenant à sa formulation. La formulation nécessaire, indispensable, car elle définit la vérité, donc le cataphatisme est nécessaire, et la distingue et la sépare de toute déformation, de toute altération. Cette formulation ne remplace ni n'épuise la connaissance de la vérité qui demeure une expérience vécue, un mode de vie et non pas une construction théorique. On peut penser à l'icône. L'icône n'est pas une représentation photographique. On ne représente pas Dieu à travers les photos, comme vous voyez sur l'écran. Vous représentez ici Saint Grégoire Palamas par une icône. Donc l'icône veut nous décrire, nous donner une image de l'être humain, mais quel être humain? Un être humain rempli de la grâce de Dieu. C'est pour cela que nous voyons cette partie lumineuse autour de la tête du saint, parce que ça exprime la présence de Dieu dans tout l'être. Il ne faut pas imaginer de celui qui s'approche de la sainteté, qui vit la sainteté. Donc, l'icône est une image théologique, c'est-à-dire elle exprime une théologie. C'est pour cela qu'on parle de théologie par écrit, qui sont les saintes écritures, et théologie en image. L'icône est une façon de parler de Dieu. Je reviens à la parole pour vous présenter une façon dont l'Église a senti pouvoir porter son expérience envers nous, c'est les affirmations antinomiques. C'est très beau d'ailleurs, je vous donne des exemples. Par exemple, on parle avec des préfixes négatifs. Inexistant, invisible, inexprimable, incompréhensible, inconnu. On parle de Dieu, la connaissance de Dieu et en même temps une connaissance qui dépasse toute connaissance. Donc pour nous, il demeure inconnu en même temps. L'utilisation du préfixe hyper, hyper existant, hyper bon, hyper Dieu, par exemple, dit Saint Denis l'Areopagite. Après, on emploie des mots qui ont on utilise le sens de façon contradictoire, c'est-à-dire obscurité divine au lieu de lumière divine, par exemple. Les oxymores, voir l'invisible, accéder à l'inaccessible, obscure clarté. Tout cela veut souligner la surabondance, la négation par la plénitude, par le dépassement. Ça pour donner un exemple de ce qu'on utilise, qu'on emploie comme mot, comme terme, comme mot-clé pour pouvoir parler de Dieu. Mais il est évident qu'on peut parler d'une manière très belle de Dieu, mais que le plus important pour nous, l'essentiel pour nous, c'est de connaître Dieu et de pouvoir transmettre cette expérience, qu'elle soit véritable, sinon il ne faut pas la transmettre, qu'elle soit véritable. Et c'est pour cela qu'il nous faut une conscience dogmatique correcte, l'amour pour les autres, le repentir, le lien fort avec les autres fidèles qui vivent dans la vie de l'Église. Et donc, ce genre de vie s'exprime par des concepts, mais les concepts ne sont que, je répète, le contour intellectuel de ce qui, en réalité, dépasse le discours. On parle de la méthode de la théologie, justement, parce que nous analysons les rapports entre théologie et science, parce qu'on se rend compte aussi que le registre de connaissance de la théologie est vraiment différent par rapport à ce qu'on connaît de la part des sciences. Il est différent parce qu'il ne supporte pas la systématisation théorique propre à la science, étant donné que même le mot théorie, théoria, comporte des significations différentes. Je vous donne une citation de Jean Mendorf. À Byzance, le concept de théologia était inséparable, de même qu'il l'avait été pour les Cappadociens. On a traité les Cappadociens la séance précédente. De la théoria. Par voie de conséquence, et contrairement à l'attitude occidentale, la théologie ne pouvait être une déduction rationnelle à partir des prémices révélées, c'est-à-dire de l'écriture ou des décrets d'un magistère ecclésiastique. Elle était une vision vécue par les saints, donc l'authenticité devait bien entendu être vérifiée par le témoignage de l'écriture et de la tradition. Ce n'est pas qu'un processus de déduction rationnelle eût été totalement éliminé de la pensée théologique, mais les Byzantins les considéraient comme le niveau théologique le plus bas et le moins sûr. Le vrai théologien était celui qui voyait et qui vivait le contenu de sa théologie. Donc on comprend bien au moins au niveau de logique. Et cette expérience procédait non pas de seul intellect, bien que celui-ci ne fût pas exclu, mais des yeux de l'esprit qui mettent l'homme dans sa totalité, y compris son intellect. C'est très important pour l'occidental qui tente à utiliser dans la connaissance principalement son intellect, ses sentiments et même ses sens en contact avec l'existence divine. Ce qui fait la différence entre la connaissance théologique et la connaissance scientifique, c'est que dans la connaissance théologique, l'être humain dans son entier, dans son intégralité, participe à cette connaissance. C'est une vraie différence, une vraie distinction, parce que si nous avons un cerveau remarquable, la fuite de cerveau, voilà, aux États-Unis ou ailleurs, je ne sais pas où, donc si on a un cerveau remarquable, on peut faire de la science, mais avec un cerveau remarquable, ça ne veut pas dire, pas du tout, qu'on arrive à connaître Dieu. S'il n'y a pas de repentir, s'il n'y a pas d'ouverture de son cœur, à travers le repentir, bien sûr, s'il n'y a pas de purification de l'être humain dans son cœur pour pouvoir distinguer Dieu. Donc, Paul Evdokimov, un autre théologien très connu dans le monde orthodoxe, dit la chose suivante: la théologie comporte un élément doctrinal, la didascalie objective de l'Église, c'est-à-dire l'annonce de la venue du Christ, et avec tout ce qui concerne son enseignement, sa catéchèse, mais plus profondément dans sa sève même, elle écoute ses saints, s'alimente à leur expérience pneumatophore du Verbe, c'est-à-dire qui porte l'Esprit Saint, pneumatophore. Ainsi comme le montre le titre d'un des écrits de Denis l'Areopagite de la théologie mystique, celle-ci est théologie du mystère qu'on ne connaît que par révélation et participation. Elle saisit les paroles de Dieu à l'intérieur des fani, c'est-à-dire manifestation de Dieu, ce qui a donné épiphanie ou théophanie. Et Lossky, Vladimir Lossky, ajoute que dans la tradition orientale, nous n'avons jamais distingué nettement entre mystique et théologie, c'est-à-dire il n'y a pas de rupture entre l'expérience personnelle en Dieu, en bénéficiant du soutien de la conscience ecclésiale, de tout le corps ecclésial, donc expérience personnelle, et dogme affirmé par l'Église. C'est-à-dire le dogme n'est que les repères donnés par Dieu à travers la révélation faite à la conscience de l'Église, les repères qui nous donnent un peu les jalons du chemin que nous parcourons envers Dieu. Si on s'éloigne, si on ne respecte pas ce jalon, c'est notre propre risque et bien sûr que nous ne pouvons pas avoir les mêmes résultats. Il est important aussi de vivre intra-ecclésia, c'est-à-dire dans l'Église. Justement ce que je viens de dire, c'est-à-dire si on s'éloigne du chemin, ce n'est plus facile. Donc, quand on parle de méthode, on se rend compte en réalité, nous avons, comme dans le monde scientifique, une communauté auquel nous soumettons les résultats de nos actions, de nos découvertes personnelles. Et ça concerne non pas uniquement le nombre de personnes vivant la foi, dans le monde d'aujourd'hui par exemple, mais ça traverse les siècles et on parle en général de la conscience dogmatique de l'Église, qui se manifeste à travers des textes, à travers l'héritage, l'enseignement que nous rencontrons dans la vie de l'Église. Et donc nous soumettons nos propres expériences à nous, à ce genre de discernement ecclésial qui nous aide à ne pas égarer par rapport à ce qu'on reçoit par l'expérience de l'Église dans sa totalité. Et donc, en même temps, nous sommes nous-mêmes des gens qui deviennent un peu le laboratoire personnel dans lequel Dieu se manifeste et nous, on sent la manifestation de Dieu. Le père Boris Bobrinsky, l'ancien recteur de l'Institut Saint-Serge à Paris, exprime le lien entre théologie et mystique de la façon suivante. Que serait en effet une théologie sans mystique? Un enseignement théorique, rationnel, qui ne nourrit pas, qui aurait une signification théorique, mais qui n'engloberait pas notre existence. Que serait d'autre part la mystique sans la théologie? Une exaltation qui entraînerait une aliénation, une déformation profonde de notre être, même dans la mesure où nous serions pris par un mouvement, un dynamisme, une force inconnue auquel nous serions contraints de nous soumettre. Mais bien entendu, en parlant de mystique, Lossky avait en vue l'expérience spirituelle qui ressort constamment dans les écrits des pères de l'Église. Les écrits sont pleins d'une flamme, d'une souffrance, d'une expérience vécue qui ont traversé, qui se renforce de nous communiquer. Là, nous voyons de père spirituel à disciple la transmission personnelle d'une expérience, d'une connaissance et finalement la transmission de l'Esprit Saint lui-même. Vous voyez comment les paroles de Saint Séraphin de Sarov sont données d'une autre façon par un éminent théologien de nos temps, qui est le père Boris Bobrinsky. C'est-à-dire, finalement, c'est l'Esprit Saint que nous devons obtenir à travers tous les côtés, tous les outils d'ordre méthodologique que nous appliquons dans la vie de l'Église. Et quand je dis méthodologique, c'est la méthode des pères, c'est-à-dire comment les pères ont su connaître Dieu, et ça c'est la philokalie. Donc les livres méthodologiques par excellence de notre Église sont les ouvrages philokaliques, synthétisés d'une façon magistrale par le père Dmitri Staniloï dans la théologie ascétique et mystique de l'Église, dont vous pouvez vous procurer le volume qui présente pour le lecteur français cet ouvrage magnifique. Paru en Roumanie, il est intéressant de faire l'observation aussi que le mot théologien, c'est-à-dire ceux qui peuvent nous parler de la théologie, le mot théologien est très peu utilisé dans la vie de l'Église. On parle de Saint Grégoire de Nazianze, auteur de poèmes contemplatifs, Saint Grégoire le théologien. Le premier, c'était Saint Jean, évangéliste, disons le plus mystique des quatre évangélistes, et de Saint Simon, le nouveau théologien. Et donc, voilà, ça nous empêche à dire d'une façon très courante que celui qui a une licence dans les études théologiques est un théologien. Le mot théologien a une charge extraordinaire mystique dans la vie de l'Église. Nous sommes en quelque sorte ceux qui ont des licences en théologie. Nous sommes sur le chemin de la découverte de Dieu, mais nos licences ne peuvent pas dire que nous sommes des théologiens de l'Église. Nous sommes des gens qui découvrent la théologie. Et pour finir aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une composante scientifique dans la vie de l'Église. C'est surtout quand on apprend la théologie dans les facultés de théologie, donc il y a une composante scientifique qu'on ne néglige pas. Elle fait partie de nos études théologiques, mais principalement le but de la vie chrétienne étant l'acquisition de Saint-Esprit, le but d'une instruction théologique est s'approcher du but de la vie chrétienne, c'est de s'approcher de cette présence de l'Esprit-Saint. Et bien sûr que l'aide qui peut être précieuse de la part des sciences peut contribuer à ça, mais le plus important, c'est de ne pas oublier le fait que nous sommes appelés à la connaissance de Dieu, pas à la connaissance d'un objet de connaissance quiconque qui s'appelle Dieu, mais la connaissance de Dieu, c'est-à-dire connaître celui qui a engendré de telles expériences dans la vie de l'Église. Je dois vous remercier de votre attention. N'hésitez pas à m'envoyer par SMS, par email vos questions et bien sûr que nous allons pouvoir répondre. Je vous dis donc... Je vous encourage, je vous dis au revoir et je vous encourage à découvrir les ouvrages que je viens de citer, à faire vos propres recherches et je vous encourage à appliquer, on peut dire, les principes qu'on vient d'énoncer dans vos vies personnelles. Et donc, le principe, c'est qu'il nous faut une ascèse, c'est-à-dire un effort spirituel pour pouvoir s'approcher, pour pouvoir mieux sentir Dieu, parce que si on purifie nos cœurs, on arrive de plus en plus à sentir, donc à contempler Dieu, et que cette ascèse se fait par la vie de l'Église. Il nous faut la participation au sacrement de l'Église, il nous faut la lecture pour pouvoir faire notre propre croissance dans la conscience dogmatique qu'il nous faut pour pouvoir de mieux en mieux comprendre Dieu. Et donc tout ce que je viens d'évoquer concerne, disons, une certaine méthodologie de la vie de l'Église, mais il faut bien sûr comprendre que cette méthodologie n'a rien à voir avec les méthodologies qu'on trouve dans les connaissances d'ordre scientifique ou autre, et qu'on utilise le mot méthodologie justement pour pouvoir situer le contexte dans lequel nous avons les bases qui nous permettent l'expérience de Dieu. Je vous remercie de toute votre attention, je vous attends pour une prochaine fois avec les lectures que je viens de vous suggérer, faites au moins en partie.